Assure efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose priorité santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Comprendre et définir les troubles bipolaires, c'est une tâche complexe. Impossible, par exemple, de déterminer avec certitude la cause de cette maladie psychiatrique qui peut bousculer le patient, le précipiter entre exaltation et dépression. Saute d'humeur invalidante, excitation, mélancolie cyclique, mais attention, avec les troubles bipolaires, pas de généralité. Le tempérament, l'histoire individuelle, l'âge de déclenchement vont interférer, tout comme les antécédents familiaux et l'hygiène de vie. Des troubles dont la singularité peut retarder le diagnostic comme la prise en charge. Et beaucoup de préjugés collent à cette maladie. Le fait, par exemple, que l'on emploie l'expression bipolaire pour des cas qui ne relèvent pas de la maladie et que l'on traite pour dépression des personnes objectivement bipolaires. Et pourtant, un diagnostic rigoureux est fondamental pour offrir des solutions aux malades fragilisés par des conduites addictives parfois et des comportements suicidaires, des agissements qui peuvent mettre en péril la vie du patient et plonger son entourage dans un profond désarroi. En studio avec nous, docteur Élian Touche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, directeur du Centre des troubles anxieux et de l'humeur à Paris. Vous avez signé le livre « Sommes-nous tous bipolaires ?» publié aux éditions Josette Lyon. Également avec nous, Alice Vigneault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes atteinte de troubles bipolaires, père aidante et chef de projet au sein de l'association Bipol Falray, j'espère que je l'ai bien prononcé, pour la sensibilisation et la prise en charge des malades. Et puis en deuxième partie d'émission, on va retrouver en ligne du Burkina Faso le professeur Harouna Ouédraogo, chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Ouédraogo d'Ouagadougou. En fin d'émission, on retrouvera notre bulletin de santé, tour d'horizon de l'actualité de la semaine avec à la une la nouvelle politique de santé du gouvernement français axée sur la prévention. Et en Afrique du Sud, des victimes de l'épidémie de listériose qui déposent une plainte en nom collectif. Bien sûr, notre numéro pour témoigner et poser vos questions, c'est le 33 80 82 75 75.
RFI.
Docteur Élian Touche, on peut le dire, hein, votre titre, c'est une petite provocation. Sommes-nous tous bipolaires? Parce qu'en fait, vous y répondez presque tout de suite dans votre livre.
Ouais.
C'est à la page 18. Vous écrivez « Tout le monde n'est pas bipolaire ni cyclothymique ». Du coup, on va s'arrêter sur ces deux termes.
Bien sûr.
Ces deux notions, docteur Élian Touche. D'abord, cyclothymique, qu'est-ce que ça veut dire?
Ce qu'il faut dire, le mot cyclothymique était prononcé en 1870, c'est-à-dire 20 ans avant la psychose maniaco-dépressive. Et toute la définition était là. Donc c'est des gens qui ont des variations continuelles, des hauts, des bas, et qui ont des ressemblances avec les formes bipolaires typiques, dans le sens les hauts et les bas, mais c'est pas le même mode évolutif, c'est pas le même âge de début, et c'est pas le même tempérament. J'ai beaucoup aimé dans votre présentation en disant, on connaît pas les causes de la maladie, même les critères de définition font débat. Donc on a besoin de plusieurs facteurs pour la définir, en attendant qu'il y ait des tests sanguins qu'on appelle des marqueurs biologiques. Comme pour le diabète, comment on sait? On fait un examen, non? On attend ces examens pour les bipolaires. Mais les quatre tempéraments, âge de début, mode évolutif, sont nécessaires pour distinguer deux grandes formes de bipolaires, ceux qui sont épisodiques et ceux qui sont cyclothymiques.
En fait, c'est pas parce qu'on a ces sautes d'humeur, c'est pas parce qu'on va passer facilement, hein, pour être schématique, du rire aux larmes, d'une espèce d'excitation incontrôlable, qu'on est pour autant bipolaire.
Tout à fait, c'est ça qui est banalisé, la maladie, c'est-à-dire, on va quelqu'un qui a comme ça un peu euphorique, on dit il est bipolaire. Ça blesse les malades en disant non. Quand on est bipolaire, c'est pas juste ça, c'est on souffre de ces sautes d'humeur. C'est-à-dire, ce qui définit la maladie, ce sont ses conséquences. Au niveau stabilité, au niveau dépression, suicide, réactivité aux médicaments, impact sur le travail. C'est une vraie maladie par ses conséquences.
Alors, on va le voir au cours de cette émission avec vous, docteur Antouche. Compréhension, diagnostic, c'est vraiment pas évident, y compris d'ailleurs de la part de certains médecins. Et on s'en rend compte, vous citez un nombre de cas, ces parcours de patients, ils voient 6, 7 psychiatres, des ordonnances à n'en plus finir, on peut dire des erreurs de diagnostic, parce que finalement, par la suite, les problèmes, la maladie est amplifiée. Comment on explique justement cette incapacité à mettre le mot bipolaire sur les troubles bipolaires, docteur Elie Antouche?
Tout à fait, parce qu'il y a plein d'erreurs et de quiproquos. Beaucoup de gens pensent que le mot bipolaire nous vient des États-Unis, du DSM, pas du tout. En 1953, c'est un Allemand qui a proposé le terme bipolaire et les Américains ont mis 30 ans pour l'accepter. Et quand on dit bipolaire, c'est pas une punition, c'est connaître mieux pourquoi le malade déprime.
Le problème, c'est la stigmatisation. On stigmatise tellement les patients qu'on prend pour une insulte le nom simplement d'une maladie.
Tout à fait, c'est ça. Donc, ni banaliser, ni surdiagnostiquer, juste faire un vrai bilan clinique, psychologique. Et le sens du diagnostic, c'est pas une étiquette, c'est avoir un plan d'action. Quoi faire avec ce diagnostic? Moi, je dis souvent à mes malades, quand j'annonce vous êtes bipolaire, c'est une bonne nouvelle.
On sait.
Parce qu'on va comprendre ce qui se passe et on va mettre au moins les vrais traitements. Et éviter les pertes de temps, comme vous dites, et les mauvais médicaments.
Alice Vigneault, je le disais tout à l'heure dans la présentation, d'ailleurs, c'est quand on écrit une émission, quand on a quelqu'un qui est malade, on se pose la question, est-ce que je vais le désigner par son trouble? Parce que des fois, on peut dire, ça peut carrément être stigmatisant. Est-ce que dans votre cas, Alice Vigneault, si je dis vous êtes atteinte de troubles bipolaires, c'est quelque chose qui vous heurte?
Non, pas du tout. Ça dépend un peu comment on le considère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère ça comme un diagnostic, alors effectivement, j'ai une maladie bipolaire. Mais je ne suis pas bipolaire. Je ne suis pas un trouble.
Votre identité, c'est Alice Vigneault, c'est pas bipolaire.
C'est ça, exactement. Et justement, chez les personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires, donc j'essaye d'éviter de parler de patients, justement, pour pas les stigmatiser. Et ce qui est très important, c'est de sortir de ce statut de malade. Quand la maladie arrive, ils sont un petit peu submergés. Ils savent pas comment faire, ils souffrent énormément. Et donc, petit à petit, il va falloir leur apprendre, d'une part, à autogérer la maladie et à faire en sorte qu'elle prenne moins de place pour qu'ils reviennent une personne à part entière, un citoyen, un parent, un conjoint.
On le comprend en vous entendant, vous êtes non seulement patiente, moi j'emploie le mot parce que je trouve pas ça stigmatisant du tout d'être patient, vous êtes non seulement patiente mais aussi vous donnez de la connaissance et de l'acceptation aux autres personnes que vous rencontrez, vous êtes père aidante. Dans votre cas, est-ce qu'il a fallu attendre longtemps avant d'arriver au bon diagnostic?
Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est aussi pour ça que je me suis bien rétablie et assez rapidement, c'est que le diagnostic a été posé quasiment immédiatement. J'ai commencé par une manie franche, donc ce qui est plus facile pour poser un diagnostic. Et comme disait le docteur Antouche, c'est vrai qu'une fois qu'on sait ce qu'on a, on sait contre quoi on doit se battre et comment on peut se battre.
Sans curiosité malsaine, ça veut dire quoi une manie franche? Alors, ça se manifeste comment?
Voilà, donc c'est ces périodes d'exaltation très fortes, mais où on va jusqu'à... On a des idées qui partent dans tous les sens, des projets qui partent dans tous les sens, qu'on n'arrivera pas à terminer. On commence à être aussi déconnecté de la réalité, avec ces idées, des connexions qui se font, et donc qui font que on se déconnecte de la réalité.
Alice Vigneault, à ce moment-là, qui vous dit c'est trop? C'est votre entourage ou c'est vous-même qui en avez conscience?
Oui, alors la première fois, c'est mon entourage. Sachant qu'au tout début, on ne sait pas ce qui nous arrive. On n'a jamais imaginé qu'on aurait une maladie psychiatrique un jour. C'est tellement tabou, c'est tellement stigmatisé. Voilà, autant un cancer, on se dit si je fume, si je mange trop mal, etc., on peut risquer un cancer. Autant les maladies psychiatriques, on n'en parle pas suffisamment. À commencer par, quand on parle justement de la prise de drogue, on sait qu'il y a un fort risque de développer soit des troubles schizophréniques, soit des troubles bipolaires. Et je trouve qu'auprès des jeunes, on n'en parle pas assez.
Est-ce que vous avez été hospitalisée au cours justement de ces crises?
Alors là encore, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été hospitalisée, mais sur des périodes très courtes, une dizaine de jours. Là aussi, ça permet de pas sortir de l'inclusion sociale, en fait, et de rester, de pas être trop coupé de ses activités, trop coupé du monde. J'ai eu la chance aussi d'être entourée par une famille, un mari, etc., d'avoir des enfants dont je devais m'occuper même quand j'étais au plus mal. Et j'ai eu la chance aussi qu'il y ait eu comme ils étaient à l'école, en garderie, etc., il y avait une prise en charge la journée. Donc, quand j'étais pas trop mal, quand j'étais trop mal, ils ne le voyaient pas. Mais le matin, me lever pour eux, pour leur préparer leur petit déjeuner, leur préparer leurs vêtements pour les emmener à l'école, c'est aussi ce rythme-là. Et c'est aussi de garder ce rôle de maman, en dépit des troubles, qui m'a aussi permis de tenir.
Mais comme beaucoup de gens, on est malade, mais la vie continue. Est-ce que vous considérez aujourd'hui en rémission, comment vous considérez, ou comme malade chronique? Je ne sais pas quelle est la terminologie précise qu'on emploie.
Alors, moi je dirais que je me sens comme une personne rétablie, mais la maladie chronique, elle, ne disparaît pas, même en dehors des crises. Et c'est très important pour les personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires de le savoir, c'est que il y a ce qu'on appelle les symptômes résiduels, donc qui peuvent être les troubles du sommeil, une hyper-réactivité émotionnelle, une vulnérabilité au stress, des symptômes dépressifs résiduels. Et c'est en soignant tout cela, notamment à l'aide de thérapies, de méditation de pleine conscience, de thérapie cognitivo-comportementale, etc., qu'on peut soigner ces symptômes et éviter les rechutes grâce à cela.
Vous parlez de rechutes. Est-ce que, selon vous, il y a des facteurs déclenchants objectifs à vos crises, ou est-ce que finalement c'est suite à votre état général qu'il peut y avoir une crise ?
Alors, comme disait le docteur Antouche, les facteurs sont multiples. Il y a d'une part une vulnérabilité génétique. Ça a été prouvé. On sait que les jumeaux, par exemple, ont plus de chances quand il y en a un qui est touché. L'autre va sans doute être touché aussi. Quand il y a deux parents atteints de troubles bipolaires, on sait qu'il y a aussi une plus forte possibilité de transmettre aux enfants. Il y a aussi souvent des facteurs environnementaux. Donc moi, ça a été plutôt un cumul d'événements difficiles. Et puis aussi dans mon cas, ça a été lié à la période périnatale, postpartum en fait. Je suis tombée malade progressivement, de façon un peu progressive, après mon troisième accouchement.
Alors, docteur Élie Antouche, on l'a vu avec le cas d'Alice Vigneault, pas vraiment de retard de diagnostic, mais il faut bien pointer l'importance, justement, il faut qu'il y ait ce diagnostic, parce que c'est vraiment préjudiciable pour la santé des personnes. Quand il y a ce retard, non seulement il peut y avoir des hospitalisations parfois longues, des prises de médicaments qui sont inadaptées, et tout ça, en fait, ne va faire qu'altérer l'état du patient.
J'ai retenu dans Alice le mot chance. Elle a utilisé au moins 5-6 fois. Et ce qu'on parle beaucoup des facteurs de risque, et on oublie parfois les facteurs de protection. Il n'y a pas que risque. La chance de commencer par une manie. Donc ça se simplifie. Comme ça, vous avez le traitement directement, le lithium.
Pour éviter justement qu'il y ait un faux diagnostic de dépression.
Parce que 90% des autres bipolaires commencent par des dépressions. C'est ce qui complique les choses. Deux, le soutien social, c'est énorme. Et trois, le postpartum. On sait que statistiquement, la troisième grossesse, c'est le pire. Donc toujours mes malades ont un traitement préventif pour ça. Au septième mois, ils ont déjà le lithium. On n'attend pas la manie, on sait prévenir. Après, sur votre question sur la maladie chronique, c'est comme le diabète, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi on est diabétique. Mais une fois que le diabète est déclaré, on fait un régime, on sait qu'on a des limites. Un bipolaire déclaré, il doit vivre, il connaît ses limites. Et j'ai aimé beaucoup dans une émission où vous étiez invité, vous étiez la seule à utiliser le mot rétablissement. Ces malades ne sont pas stabilisés et punis par des médicaments lourds. On les soigne pour qu'ils vivent. Okay? Il y a des gens stabilisés, mais ils ne cassent rien. Voyez? Ils sont stérilisés par les médicaments. Nous, on utilise le mot rétablissement, c'est-à-dire faire avec la vie, faire avec sa maladie. Et faire que tous les facteurs autour protègent et limitent les facteurs de risque. Et c'est votre boulot de père aidante, c'est génial.
Vous avez utilisé le terme, docteur Élie Antouche, le terme de lithium pour le grand public. On peut expliquer qu'est-ce que c'est ce produit? Quel est son mode d'action sur l'organisme?
Ah ouais, le lithium, il faut le dire, ça fait 4 milliards d'années qu'il est sur Terre. On ne sait pas qui l'a fait et pourquoi la nature l'a fabriqué. Soit elle savait que les bipolaires vont venir pour les soigner.
Peut-être qu'ils étaient déjà là.
Il est là, c'est pas les labos. Et son mode d'action est tellement énigmatique que tous les chercheurs maintenant se cassent la tête pour savoir, un, qui répond au lithium, c'est pas tous les bipolaires. Et maintenant, on sait que c'est la nature qui détermine, c'est-à-dire on a repéré sur certains chromosomes des mutations qui disent, si vous les avez, vous êtes répondeur au lithium. Et ça, c'est un pas énorme. Hein. Si on fait un test, on peut savoir et sans retard donner le lithium. Deuxième chose, il faut jamais monter le lithium comme une punition parce qu'il y a, moi je l'utilise à plusieurs doses. C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent 100 mg, d'autres 1000. Parce qu'on le présente comme médicament toxique pour les reins, la thyroïde. Non. À petite dose et bien donné avec une bonne thérapie, ça peut suffire.
C'est un traitement qui est pris sur le long cours, docteur Elie Antouche? C'est pour
au
toujours?
Moi, je dis pas à vie parce que ça fait peur. J'ai dit, on continue jamais quelque chose qui ne marche pas. Donc, il nous faut 2 ans pour savoir s'il est bon. Et après, le malade décide. Une fois qu'il est mieux, lui ne lâche pas le lithium.
Je vais vous poser une autre question sur d'autres molécules, hein,
oui,
parce qu'en général il y a des traitements combinés.
Il n'y a pas que le lithium, il y a des alternatives.
Mais ces images qu'on a de malades assommés, de malades quasiment abêtis, on peut le dire. Est-ce que c'est justement
on
à cause
dire
des
abêtis,
erreurs
zombifiés,
exactement, c'est terrible.
Tout ce que vous voulez.
Voilà, tout ce
et
qu'on
ça,
a de l'image d'ailleurs qui nuit terriblement à l'image
et
de
ça,
la psychiatrie.
Ça fait peur.
Exactement.
C'est-à-dire parce que les gens disent diagnostic bipolaire, c'est on va être drogué. Non, diagnostiquer, c'est comprendre.
Vous en êtes l'incarnation,
s'informer.
Alice.
Et pas du tout drogué ni zombifié. Il faut simplifier. Moi, je passe la moitié de mon temps pour les malades qui viennent au cabinet à réduire. Je dis, j'ai un karcher pour karcheriser tout ce que les médicaments ont rajouté comme fardeau. Les malades sont déjà mal. Hein, pour qu'ils puissent, comment ils peuvent se rétablir s'ils sont bloqués par les médicaments? Il faut leur donner juste la bonne dose.
Justement, des doses, docteur Elie Antouche, qu'il faut réviser, reconsidérer, ça
tout
se fait comment?
Flexible, moi, c'est pas au malade de suivre mes dogmes, c'est à moi de m'adapter à chaque personne.
Alice Vigneault, vous voyez votre psychiatre à quelle fréquence?
Une fois par mois. Et j'aime bien parce qu'on fait le point sur ce que je vis. C'est vrai que c'est une maladie qui change beaucoup, qui est très impactée par les changements d'environnement en fait. Donc dès qu'on a un coup dur, ça peut impacter la pathologie. Donc c'est toujours agréable de bien discuter parce que là aussi j'ai la chance d'avoir un bon psychiatre.
Alice Vigneault, docteur Elie Antouche, on va tout de suite donner la parole à un auditeur de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Cet auditeur, il est en ligne de Cotonou au Bénin, c'est Flavien. Bonjour Flavien.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Flavien.
Moi je m'appelle Flavien, j'ai actuellement 31 ans. Lorsque j'avais 17 ans, j'ai pris pour la première fois un antidépresseur. Mais c'est à 30 ans qu'on a détecté que je suis bipolaire. Et on m'a prescrit le tégrétol comme thymorégulateur. En plus du tégrétol, je prends aussi un antidépresseur qu'on appelle l'arosil. Bon, actuellement, le problème que j'ai, c'est ma difficulté à pouvoir travailler. Parce que je n'ai pas pu faire mes études supérieures à cause des problèmes de concentration et de mémoire aussi. Et j'aimerais savoir si en France là-bas, les bipolaires arrivent à travailler. Parce que moi, j'arrive pas à me concentrer et puis à affronter les soucis de la journée.
Alors bien sûr, Flavien, impossible de faire une consultation par téléphone, hein, on l'a bien compris, mais je vous voyais, docteur Elie Antouche, quand Flavien énumérait les traitements, les produits qu'on lui a prescrits, vous n'aviez pas l'air d'être tout à fait en accord, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bonjour Flavien.
Oui, bonjour docteur.
Ce que je peux vous dire aujourd'hui sans faire une consultation, vous êtes d'accord, mais il y a beaucoup d'espoir dans votre cas. C'est normal, quand il y a des problèmes de concentration, vous n'arrivez pas à travailler. La question est-ce que ces problèmes sont liés à votre bipolarité et on sait qu'il y a des problèmes cognitifs ou au traitement que vous recevez? Parce que je vois dans votre traitement, il y a beaucoup de choses qui peuvent altérer votre concentration. Donc, allez revoir votre psychiatre, regardez un peu si on peut donner des choses moins forte que l'aldol et tégrétol, et réduire l'aroxyl parce qu'il est anticholinergique et pas bon pour la mémoire. Pour le travail, soit vous reconsidérez vos choix professionnels et respectez vos limites, mais il y a toujours un espoir de récupérer et avoir un travail adapté à votre handicap.
Flavien, est-ce que c'est une demande que vous avez faite justement à votre psychiatre de dire, bon, vous me donnez un traitement, c'est une chose, mais moi je veux continuer à travailler, je veux continuer à avoir une vie sociale. Est-ce qu'il a conscience justement de votre implication, de votre volonté de vous inscrire dans la vraie vie ?
C'est son droit, c'est son droit, oui.
Justement, par rapport au traitement, dire j'ai pas envie d'être assommé.
Oui, bon, il y a 10 mois environ, j'ai eu des phases maniaques et on m'a injecté aussi le Haldol. Et j'ai fait 3 jours sans me rappeler de ce qui s'est passé.
Flavien, soyons simples. Un, vous pouvez pas travailler si vous n'êtes pas stable. Ok, s'il y a des phases maniaques, il faut bien les stabiliser et prendre le traitement qu'il faut. Deux, Tegretol seul n'a jamais prouvé qu'il est régulateur. Il faut le changer ou ajouter du lithium. Une fois stabilisé, là, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle un rétablissement et un entraînement pour la reprise fonctionnelle à mi-temps, tout ça. Mais tant qu'il y a des phases maniaques et des injections d'Haldol, là, c'est comme des urgences, vous voyez. C'est comme si on vous avait fait une péritonite. On pouvait pas travailler. Il faut calmer la maladie et récupérer et donner les vrais traitements régulateurs.
Voilà Flavien, docteur Elian Touche qui vous a donné ses conseils. Et le premier d'entre eux qu'il vous a donné, c'est de retourner voir votre psychiatre pour essayer d'ajuster au mieux votre traitement. Merci beaucoup, en tout cas Flavien, de cet appel de Cotonou au Bénin. Alice Vigneault, vous êtes diplômée en éducation thérapeutique du patient. Quand vous recevez justement d'autres malades, vous voyez certaines personnes dans un véritable état de désarroi, de dire « moi, j'arrive plus à travailler, j'arrive plus à communiquer, je sais plus quoi faire ».
Bien sûr, il faut savoir, comme disait le docteur Antouche tout à l'heure, que la maladie et chaque rechute déconstruit totalement la vie de la personne. Ça peut provoquer des divorces, des licenciements ou des pertes d'emploi. Et donc il faut tout reconstruire. C'est ça qui est douloureux parce que d'une part il faut effectivement apprendre à bien gérer la maladie et en même temps tout reconstruire. Il y en a aussi dont les amis s'éloignent parce que en dépression c'est compliqué. La maladie fait qu'ils s'isolent eux-mêmes et les amis aussi ne nous retrouvent pas, ne nous reconnaissent pas et donc s'en vont.
Justement quand on est engagé dans cette action d'éducation comme on dit du patient, est-ce qu'on a aussi un mode d'action auprès de l'entourage, auprès des proches, parce qu'on l'a compris, c'est absolument fondamental.
Oui, bien sûr, on essaye d'informer aussi les proches sur ce qu'est la maladie, comment ça se passe. Au tout début de la maladie, l'entourage est important pour aider la personne qui ne sait pas encore trop ce qui lui arrive à repérer les premiers signes avant-coureurs. Et ça, c'est très important pour agir vite, pour prévenir la rechute.
Docteur Elian Touche, ces troubles bipolaires laissent pas mal de questions sans réponse, en tout cas sans réponse formelle. On le disait tout à l'heure sur l'origine, on a parlé de la génétique, on a parlé de la famille, ce qui s'est passé par exemple dans l'enfance, enfin tout un tas de choses, même si rien n'est sûr, en tout cas il y a beaucoup de pistes. Mais il y a une question, c'est pourquoi je suis tombée malade ?
Ouais, c'est ce que, avant Hippocrate, les gens disaient, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? On pensait que le dieu était en colère.
Mais on le pense toujours, hein, quand on tombe malade, souvent les gens se disent, j'ai dû faire quelque chose pour en arriver là.
Hippocrate disait, non, c'est la nature, c'est pas Dieu. Pourquoi ? Moi j'ai dit, ok, je ne sais pas, mais comment je peux vous aider ? On peut. Et là, on peut lister quelques facteurs, c'est pas pour dire que vous êtes condamné à être malade. C'est pour dire, il y a des facteurs, comme pour le diabète, hein, les causes. Ok, génétique, mais les conséquences parfois sont pires que les causes. C'est-à-dire chaque rechute induit au malade. Le vrai stress, c'est vivre la rechute, pas le déclencheur. Et c'est là où Alice a dit, le taux de divorce et de séparation multiplié par 4, l'instabilité professionnelle, les burn-out émotionnels, et cette notion d'estime de soi, c'est-à-dire chaque rechute, c'est une gifle pour l'estime de soi. Donc, aider les malades à comprendre. Et toute action sur l'entourage, et ça a été publié, diminuer par deux le risque de rechute.
Vous utilisez le terme de déclencheur, docteur Elie Antouche. Oui. Est-ce qu'il y a des patients qui essaient de s'isoler, moi je ne vais pas me mettre dans une situation où la crise va arriver, faire une espèce de cocon artificiel? Est-ce qu'on assiste à ce genre de comportement? Mais est-ce que finalement ce n'est pas rajouter une sorte d'angoisse à la maladie?
Ça, c'est chaque patient, on l'aide à savoir ce qu'on appelle en anglais les triggers, c'est-à-dire les déclencheurs, pas les causes. Par exemple, décalage horaire, changement de saison, prise des antidépresseurs, oubli du lithium, ou par exemple des personnes toxiques. Pour chaque patient, il y a des points sensibles. On les repère, soit ils sont anticipés et on leur donne des méthodes comment faire, par exemple. Ne pas faire 4-5 trucs en même temps, ne pas voir 3 personnes toxiques, ne pas être en surmenage, et ou être aidé. Et c'est là les soutiens, les conseils, tout ça sont... Et le mot magique, c'est toujours respecter ses limites. Chaque fois qu'on dépasse ses limites, on paye cher.
D'ailleurs, pour tout le monde, qu'on soit malade ou pas.
Et on a remarqué une chose dans les déclencheurs, c'est que c'est pas le stress en lui-même, mais si le stress désynchronise le rythme du sommeil, c'est ça qui fait la rechute. Parce que maintenant, on a repéré des mutations sur les gènes, qu'on appelle les gènes des horloges biologiques. Et celui qui a travaillé là-dessus a eu le prix Nobel cette année.
Oui, on avait consacré une émission à cette question.
Et ça va être une avancée énorme, parce que quand on demande aux parents, quand il était enfant, comment il dormait, la moitié dit, c'est un bébé qui ne dort pas, qui dort mal. Et 95% des bipolaires stabilisés vous disent, ont le souci de bien dormir.
Alice Vigneault, aujourd'hui, votre sommeil, il est comment? Et est-ce que c'est quelque chose qui posait problème?
Alors, avant le déclenchement de la maladie, non, j'avais aucun problème de sommeil.
Malgré trois bébés.
Ah bah oui, on doit s'adapter au rythme des bébés, je les nourrissais quand même la nuit. Mais depuis la maladie, oui, bien sûr. Et c'est quelque chose que je règle au jour le jour, en fonction du stress, justement, en fonction de mon niveau d'excitation, par exemple, pour justement être sûre de bien dormir. Effectivement, les rythmes circadiens sont impactés par la maladie, mais plus on les sécurise, plus on a une routine, mieux on dort, moins on laisse la maladie s'exprimer, et ça fait beaucoup.
Vous avez dit le mot magique, sécuriser son sommeil au quotidien.
C'est ça, au jour le jour, pas avoir une ambition de tout régler d'emblée, mais d'y aller étape par étape.
Ben, le sommeil chez moi, il est très fluctuant en fait, d'une nuit à l'autre. Et c'est vrai qu'il est quasiment perturbé, indéniablement. Je parlais de symptômes résiduels tout à l'heure, je parlais des troubles du sommeil, justement, c'est tout à fait ça.
Parce que c'est pas résidu, Alice, c'est parfois, on le voit à l'origine.
Constitutif.
Chez les bébés, dès les premiers, il y a des symptômes, c'est curieux. Alors qu'on l'appelle maladie mentale, pas du tout, c'est une maladie physique. Parce que parmi les premiers symptômes chez sommeil, l'appel du sucre et les coliques, mauvaise digestion. Okay? Après, vient tous les symptômes, tristesse, tout ça. Et à tel point, maintenant, certains chercheurs, ils veulent dire, pas trouble de l'humeur, trouble de la régulation psychomotrice. C'est-à-dire, soit on est en hyperactivité ou hypoactivité. Les symptômes émotionnels sont secondaires quand on constate que son corps ne fonctionne pas comme il faut.
Docteur Elie Antouche, Alice Vigneault, vous restez avec nous. On va se retrouver juste après une petite pause musicale avec Eddy Despréteaux.
Tu es belle, immense, diverse, colérique, éclectique, tatouée de Nick. Tu parles fort, polémique et crée panique. Tu es violente, sans pitié, cryopédée. Tu es populaire, souriante et quadrillée. Pédagogue, au carré et bétonnée. Tu es aussi craintive, de feu plein les yeux, électrique. Tu es fleurie, rempli de pâquerettes et d'incendies. Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches sans fric. Au beau lieu, bel et bien ma favorite. je garde toutes tes briques. T'insultes des mères, viole des frères, te bats pour tes terres, te sens concerné comme touché de la tête aux pieds. Il te pousse des ailes ambitieuses et ravageuses, que tu dépucelles de haine, de force vénéneuse. Tu es voilé sous un tissu couleur dorée, sous-estimé, tu brilles de frénésie et de fierté. Sur tout ton corps sont tatouées des perles d'or, que tu gardes à tort mais flatte la rue, la mise à mort. Au beau lieu, vaut mieux que je te quitte, je file mes poches sans fric. Au beau lieu, bel et bien ma favorite, je garde toutes tes briques. Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte, je file mes poches sans fric. Au beau lieu, bel et bien ma favorite, je garde toutes tes briques.
Beaulieu, Eddy Despréto, on se retrouve dans Priorité Santé, toujours pour parler des troubles bipolaires en compagnie de nos deux invités en studio. Alice Vigneault, chef de projet au sein de l'association Bipol Falleret pour la sensibilisation, à prise en charge des malades, et le docteur Élie Antouche, psychiatre, directeur du Centre des troubles anxieux et de l'humeur à Paris, auteur de « Sommes-nous tous bipolaires ?», cette question à laquelle on répond depuis le début de cette émission. Un livre publié aux éditions Josette Lyon. Alice Vigneault, on pose cette question. Quand on est bipolaire, les personnes que vous rencontrez, est-ce qu'elles admettent facilement justement cette maladie? Est-ce que c'est quelque chose, vous disiez tout à l'heure, vous en parliez, mais bien sûr en sélectionnant les personnes à qui vous le dites, mais est-ce qu'il y a une forme de, on va dire, de sentiment de honte ou de gêne à être bipolaire?
Oui, bien sûr, ce sont des maladies qui sont tabous, il ne faut pas en parler. Donc, vu que c'est tabou, forcément, il y a une honte pour la personne qui est atteinte de ces troubles. Ensuite, c'est aussi un problème de stigmatisation. C'est tellement stigmatisé que c'est compliqué. Et aussi, le milieu de la psychiatrie en lui-même est très stigmatisé. Donc, les gens aussi vont tout d'abord aller voir un généraliste, là où ils auraient besoin d'aller voir un psychiatre pour aussi être bien diagnostiqués. Voilà, donc c'est un ensemble de choses, mais on le voit dans les médias. On parle toujours des personnes bipolaires qui vont mal, en fait. On voit pas celles qui vont bien. Et or, il y en a qui vont bien, mais qui ne le disent pas parce qu'elles travaillent, etc. Et puis, dans les séries télévisuelles aussi, maintenant que je suis malade, ça me choque, saute aux yeux. Le tueur est forcément bipolaire quand il n'est pas schizophrène, bien sûr. Ou la personne, le tueur avait un parent bipolaire, donc elle a beaucoup souffert dans sa vie, etc. Et donc ça, dans l'inconscient collectif, c'est véhiculé. C'est ça qui est en fait très insidieux.
Alors justement, avant de donner la parole au confrère de Ouagadougou, docteur Élie Antouche, je voudrais que vous me parliez justement de cette stigmatisation. C'est quelque chose dont souffrent vos patients? Ils en parlent en consultation?
Oui. Moi, je peux le comprendre, mais une fois que le processus est déclenché, c'est-à-dire la façon de faire l'entretien clinique, c'est pas un interrogatoire, aider à comprendre, hein, le diagnostic devient un plan d'action, hein. Et petit à petit, on décode qu'est-ce qu'il y a derrière le mot bipolaire, le code affectif, le tempérament, la singularité de la personne. Hein. Parce que vous voyez, c'est entre être bipolaire et avoir un trouble, c'est pas facile. Il y a des gens qui disent « j'ai les deux », entre la sensibilité et les trucs. Donc il y a une double singularité qui fait que chaque personne a une façon de lui annoncer, l'aider à accepter. Et ceux qui acceptent, hein, c'est ceux qui guérissent plus vite, qui sortent dans le déni ou la désinformation. Et quand Alice, par exemple, parle, elle est plus crédible que moi en disant « moi, je suis passé par là, hein, je peux comprendre, je peux vous aider à accepter hein, et dépasser un peu ce tabou. » Mais il se trouve que les malades bipolaires eux-mêmes, ils se dénigrent. Hein, ils se font mal.
Là, ils font partie d'une société et ils reflètent aussi ce que pense la société d'eux-mêmes.
Dans la psychologie de cette maladie, on a repéré que beaucoup de gens ils n'ont pas d'auto-empathie, ils sont durs avec eux-mêmes et exigeants. C'est pourquoi la moitié sont perfectionnistes, ils veulent que tout soit noir ou blanc. Et ça, il faut dans la thérapie ou le suivi les aider à voir la gamme des gris, gris clair, gris foncé, être un peu flexible avec eux-mêmes ou clément. Et ça, ça aide à l'évolution.
De l'indulgence, vous restez avec nous, on va partir tout de suite pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
En ligne avec nous, le professeur Haruna Ouédraogo. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou. Alors professeur Ouédraogo, est-ce que le terme de bipolaire est connu par le grand public au Burkina Faso?
C'est pas évident que ce terme soit bien connu par le grand public, puisque ça recoupe des réalités peut-être sur le plan clinique qui ne sont pas toujours perçues de la même manière, selon qu'on soit un professionnel de la santé mentale ou qu'on soit tout simplement un profane dans le domaine de la psychiatrie. C'est toujours considéré en fait comme des maladies mentales, donc beaucoup plus caractérisées par les capacités en fait à réfuter.
Alors, les patients qui viennent vous voir en consultation, en général, ils n'ont pas conscience de leur maladie avant que vous posiez le diagnostic. Justement, comment accueille-t-il ce diagnostic, professeur Haruna Ouédraogo?
Avec parfois une certaine angoisse, dans la mesure où ce sont des troubles qui malheureusement évoluent de façon cyclique, et donc il y a une possibilité de rechute, parfois même avec un suivi qui se veut assez régulier et conforme. Donc cela crée forcément de l'angoisse pour les patients, mais également de l'angoisse pour la famille, qui à un moment donné va peut-être désespérer du fait que malgré le traitement, la maladie a toujours tendance en fait à revenir. Donc il faut faire beaucoup de psychoéducation, non seulement du patient, mais également de la famille, pour qu'ils comprennent le cours évolutif naturel de cette maladie, et qui comprennent aussi l'importance du traitement dans le contrôle des différentes phases donc de la maladie.
Alors faire preuve de pédagogie, vous parlez de traitement justement, professeur Ouédraogo. Quelle prise en charge est-ce que vous proposez lorsque le diagnostic est posé?
Alors chez nous, nous avons la possibilité d'utiliser les mêmes types de traitements qu'on trouve partout ailleurs, c'est-à-dire des sels de lithium dans certains cas, puisque nous ne pouvons pas l'utiliser chez tous les patients compte tenu de la nécessité de faire des contrôles réguliers du taux sanguin. Donc, certains patients qui ont les moyens de faire ces contrôles-là peuvent bénéficier de ces traitements. Sinon, en fait, nous utilisons également des antiépileptiques qui sont en fait utilisés comme traitement alternatif aussi pour ce genre de pathologie. À côté, bien sûr, de ces traitements spécifiques, en fonction de la phase, on peut être amené à utiliser soit des antidépresseurs en phase dépressive, soit des neuroleptiques en phase maniaque. Donc, pour ce qui concerne le traitement, je pense que nous n'avons, le traitement médicamenteux, je pense que nous n'avons pas tellement de difficultés. Tout le problème, c'est comment faire pour que le patient soit observant. Comment faire pour qu'ils comprennent que malgré les rechutes, il faut toujours prendre le traitement? C'est là, en fait, tout notre défi.
Merci beaucoup, professeur Haruna Ouédraogo. Je rappelle que vous êtes chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Ouédraogo Ouagadougou. On l'a entendu, hein, diagnostic, traitement, thérapie, des psychotropes dans certains cas, c'est celle de lithium. Docteur Eliantouche, vous insistez beaucoup aussi dans votre livre sur les règles d'hygiène de vie et les psychothérapies.
Eh oui, tout à fait. Bien sûr. Le traitement, c'est spécifique, mais c'est une partie. Hein. C'est là où je dis dans mon bouquin le clin d'œil sur la question « Sommes-nous bipolaires ?» En fait, la vraie question, comment sommes-nous bipolaires? Il y a des bipolaires normaux, hein, moi je les soigne pas. Hein. Et quand on dit « Comment sommes-nous bipolaires ?», c'est-à-dire « Comment m'aider ?» comment me donner le lithium, comment je propose le diagnostic, comment on fait une thérapie, comment Alice aide. Donc on est dans le comment, dans le style, c'est pas tout ou rien, hein. Et c'est ça tout l'art, c'est comme de la cuisine, quoi, hein. Il y a de la science, mais il y a un art où il y a de l'empathie, de la chaleur, la compréhension, et montrer. Moi, le meilleur compliment qu'un malade me fait, il me dit, au moins avec vous, je me sens pas malade.
Allez mieux, Alice Vigneault, vous avez, vous, suivi des thérapies d'accompagnement, vous continuez d'en
Évidemment,
suivre?
Évidemment, c'est son boulot.
Oui,
c'est son travail.
Mais aussi elle en tant que personne.
C'est mon travail. Alors en tant que personne, j'ai suivi de la méditation de pleine conscience, oui. Et ça, c'est vrai que ça a énormément changé ma vie. Comme le dit le docteur Antouche, c'est vrai que c'est un ensemble de choses. Il y a les traitements médicamenteux, l'hygiène de vie, les thérapies et les stratégies de vie. Et donc c'est un petit peu tout ça. Et aussi le savoir expérientiel. Hein. C'est là que le père aidant peut être important. C'est le partage d'expériences. On apprend beaucoup avec l'expérience pour pouvoir s'équilibrer. Moi, c'est en arrêtant les traitements que j'ai compris que je rechutais tout de suite. C'est en prenant mes traitements, mais en rechutant, que j'ai compris que les traitements n'étaient pas suffisants. C'est en étant affectée par le changement de saison que j'ai compris que c'était un facteur de risque chez moi. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi.
En étant directement sur le terrain.
Moi, mais... je dis que dans ces cas-là, avec le traitement, on devient expert de soi-même. Vous voyez ? Et un bipolaire est bien soigné, il peut être mieux que quelqu'un qui pense être normal. Non? Parce que les bipolaires doivent faire attention. Vous avez compris beaucoup de choses. Le lithium, l'arrêt, les facteurs déclenchants. Et un malade comme ça se dit, bon, je pousse tous mes malades à devenir expert en disant, on est une équipe, il n'y a pas l'expert et le malade. Hein? Et plus vous êtes attentif et vous regardez, plus vous comprenez. Et c'est ça qui est intéressant, même pour tout le monde, hein, être expert de soi, non?
Des messages d'espoir, malgré tout, docteur Elie Antouche, hein, ça va
toujours
être notre conclusion, quasiment. Mais vous dites dans votre livre que la bipolarité a tendance à devenir de plus en plus sévère et de plus en plus précoce. Alors pourquoi?
Parce qu'on a assisté pendant 20 ans à l'explosion du Prozac et compagnie, c'est-à-dire tous les antidépresseurs avec ce concept dépression majeure qui était la pire invention. Qu'un épisode égale antidépresseur, donc il y avait une grande bipolarité que j'appelle dormante, qu'on a réveillée avec les antidépresseurs. Après, le mode de vie des jeunes, le sommeil, les tablettes, le mode d'éducation, l'absence de règles, de limites dans l'éducation, le junk food, hein, ça excite. Donc tout est fait pour, au lieu que la maladie se déclare à 25-30 ans, elle se déclare avant 15 ans maintenant. Donc on la rajeunit.
Les facteurs d'hygiène de vie, justement.
Et l'hygiène de vie, c'est-à-dire les facteurs épigénétiques, c'est-à-dire le sport, l'alimentation, le sommeil, le soutien social. Hein. Si on n'a pas ces quatre facteurs, les gènes de la maladie sont à nu, quoi. Hein.
Donc parler, bien sûr, de prévention, c'est l'un des objets de cette émission. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans les studios de RFI nous éclairer sur les troubles bipolaires. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Merci Alice Vigneault, chef de projet au sein de l'association Bipol Falleret pour la sensibilisation, prise en charge des personnes atteintes. Et à vous, docteur Elie Antouche, psychiatre, directeur du Centre des troubles anxieux et de l'humeur à Paris. Je rappelle le titre de cet ouvrage, une véritable somme sur la bipolarité qui s'appelle « Sommes-nous tous bipolaires ?» publié aux éditions Josette Lyon. Merci à tous les deux.
Bulletin de santé.
Et on se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine. Un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
En Afrique du Sud, des victimes de l'épidémie de listériose se mobilisent pour obtenir réparation.
Oui, c'est une plainte en nom collectif. Elle a été déposée cette semaine contre le groupe Tiger Brands, propriétaire de l'usine de charcuterie à l'origine de la pire contamination de listériose à ce jour. Elle a provoqué la mort d'au moins 183 personnes en Afrique du Sud depuis un an. La bactérie a été localisée sur un site de production à 300 km au nord-est de Pretoria. Et après cette épidémie, à l'origine au total de près d'un millier de cas de listériose, plusieurs pays voisins de l'Afrique du Sud ont suspendu leurs importations de viande.
40 professionnels de santé envoyés en renfort à Mayotte, dans l'océan Indien, dans le cadre de la réserve sanitaire.
Mais des renforts pour une première période de 15 jours, des infirmiers, des sages-femmes, déployés pour faire face aux difficultés de fonctionnement fonctionnement de l'hôpital de Mamoudzou. L'île française est confrontée depuis 6 semaines à des barrages routiers. Et cette paralysie empêche la circulation, y compris des véhicules sanitaires.
Alors en France métropolitaine, c'est lundi dernier que le gouvernement a dévoilé son plan santé.
Oui, stratégie, plan axé sur la prévention pour les 4 prochaines années. Pour cette nouvelle politique de santé présentée par Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, Michel Diaz.
Il faut transformer le système de santé en anticipant les soins et non plus attendre que l'on soit malade pour se soigner. À commencer par la prise en charge totale du dépistage du cancer du col de l'utérus pour toutes les femmes. Une pathologie dont on recense encore 3000 nouveaux cas et provoque 1 000 000 de décès chaque année. Dans ce premier axe de la stratégie nationale de santé, il est question également de la lutte contre le tabac qui peut provoquer cancer, maladies cardiovasculaires, insuffisance respiratoire et tue 73 000 personnes par an. Les traitements seront remboursés comme n'importe quel autre médicament au même titre que la vaccination anti-grippe en pharmacie dès l'année prochaine, une opération limitée à certains patients souffrants jusqu'à présent. D'autres mesures, parmi les 25 présentées, concernent le dépistage de l'hépatite C afin de faire disparaître la maladie de l'Hexagone d'ici 2025. La promotion de la santé doit aussi se faire à l'école. Un service sanitaire de 3 mois doit voir le jour en septembre prochain en accueillant des étudiants en santé pour informer les plus jeunes sur les maladies transmissibles, sans oublier une formation généralisée aux gestes de premier secours. Enfin, l'offre médicale des territoires ultramarins devrait être renforcée avec la création d'une 100aine de postes spécifiques.
Michel Diaz, et l'on reparle, Juliette, de la qualité de l'air que l'on respire en Île-de-France.
Alors, pas de changement majeur entre 2016 et 2017, Caroline, juste une légère amélioration d'après l'organisme de surveillance, Air Paris. 5 polluants dépassent toujours les normes. Le dioxyde d'azote, 2 sortes de particules fines, l'ozone, le benzène, et les pics de pollution étaient moins nombreux en 2017 que l'année précédente, 12 jours de pic contre 18 en 2016.
En France, la mobilisation des orthophonistes, c'était jeudi dernier.
Orthophonistes hospitaliers, libéraux, étudiants dans la rue pour réclamer une revalorisation de leur grille de salaire à l'hôpital. Une délégation a été reçue au ministère de la Santé, mais cet entretien n'a débouché sur aucune proposition.
À Marseille, dans le sud du pays, l'inauguration d'un nouveau centre de recherche sur les maladies infectieuses.
On y élève des insectes, on y développe une banque de bactéries et ce centre abrite des chambres pour patients hautement contagieux. Son nom, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection. Ce projet a été lancé en 2011 et a nécessité 100 millions d'euros d'investissement.
En France, toujours, une tribune anti-médecine alternative publiée dans la presse provoque de nombreuses réactions.
124 médecins ont signé ce texte dans le Figaro pour y critiquer médecines alternatives, homéopathie et acupuncture comprises, assimilées à des, je cite, « pratiques ni scientifiques ni éthiques, mais bien ni rationnelles et dangereuses ».
Et les réactions ont donc été nombreuses et assez vives, hein, Juliette.
Attaque diffamatoire pour le syndicat national des médecins homéopathes français, tribune d'inquisiteurs pour le syndicat des médecins libéraux. Le Conseil de l'Ordre, lui, s'est contenté de regretter la forme véhémente de cette tribune.
Et on termine ce bulletin de santé avec cette étude. Nouvelle piste pour expliquer la mort subite du nourrisson, piste génétique.
Cette origine est pointée par une étude américano-britannique, citée par The Lancet. Travaux qui évoquent une mutation génétique rare qui affecte le fonctionnement des muscles respiratoires. Les chercheurs continuent d'insister sur l'importance des mesures de sécurité à prendre pour le couchage des bébés.
Merci beaucoup Juliette Rangeval et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Oussama Ké, Ophélie Lassène, aujourd'hui Stephen Hesley. Lundi, nous parlerons de l'autisme à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Pour vos questions, vos témoignages, notre numéro, toujours le 33 84 22 75 75. À lundi.
C'était Priorité Santé, avec Sono Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.